Les voies de service, mercredi 14 mars 2018. Oui, il y a toujours un peu d'incertitude dans les yeux de mes compagnons quand j'arrive pour dire la date, puisque j'ai un historique de...
Oui, un petit peu de problème avec la chronologie.
Oui, mais on est bien le 14 mars et c'est une belle journée de neige.
Oui.
On se croirait à Noël.
Ah oui.
Mais, mais voilà, c'est pas le cas. Alors aujourd'hui, il y a encore un de nos compagnons qui est tombé au combat. C'est Serge qui a un rhume d'homme cette
semaine. Oui, ça c'est sérieux là.
Alors, il doit soigner ça, puisqu'on n'est plus dans la semaine de la journée de la femme. On peut retomber dans les stéréotypes. Et... Mais on a un homme qui est toujours au poste.
Toujours.
Et c'est Daniel. Qu'est-ce que vous allez partager avec nous aujourd'hui?
Eh bien, je vais vous parler surtout de Mme Jacqueline Desmarais, qui nous a quittés le 3 mars.
Et... Mais elle ne faisait pas de musique, Mme Desmarais?
Elle ne faisait pas de musique, mais s'intéressait beaucoup à la musique. Donc, je vais vous en parler un peu. C'était pas très connu, dans le fond.
Non, c'est ça, effectivement. Alors, merci de nous en parler. Moi, je veux parler de... Ben, on n'est plus dans la semaine de la journée de la femme, mais il me restait un article, un portrait d'une femme autochtone, Tracy Campbell. Alors, je vais vous en parler. Elle défend les droits, particulièrement en matière de ce qu'il y a pour les traités ancestraux, respecter les droits environnementaux, etc. Je vais aussi vous parler de ces sauveurs, les Blancs qui s'en vont dans le Nord pour essayer de sauver les Inuits et les Inuits. Et puis, de quoi je voulais vous parler aussi? Ah oui, l'itinérance autochtone à Montréal. Il y a évidemment le problème d'itinérance, c'est pas limité aux Autochtones, mais c'est encore plus problématique. Je l'avais légèrement abordé la semaine dernière, mais là, je vais en parler plus en détail.
Ils sont surreprésentés.
Oui. Alors, je vais commencer. Non, c'est vous qui allez commencer avec un peu de musique.
Un peu de sujet musical. Il y a eu un dossier spécial dans la presse plus ce week-end. Il y a eu plusieurs articles assez intéressants qui ont été écrits et ça m'a surpris un peu quand même. Le nom Jacqueline Desmarais, je connaissais, mais je ne savais pas tout ce qu'elle avait fait. Donc, un article a été écrit par Mario Girard qui est paru le 10 mars dans le dossier spécial de la presse plus et qui s'intitule Jacqueline Desmarais, une vie au service de la musique. Un nom était et demeurera indissociable de Jacqueline Desmarais, celui de Margot Provencher. Les deux femmes se sont rencontrées en 1989 au moment où fut fondée par la mécène la Guilde de l'Opéra de Montréal. Le rôle de Margot Provencher était alors d'assister Jacqueline Desmarais dans l'organisation des événements de collecte de fonds pour l'organisme. Mais comme l'implication de Jacqueline Desmarais dans le monde des arts a pris de l'ampleur et s'est diversifiée, la présence de celle que tout le monde appelle tout simplement Margot est devenue essentielle. J'étais son bras droit, mais parfois j'étais aussi son ami ou sa sœur. En effet, au cours de ces 28 années de collaboration, Margot Provencher et Jacqueline Desmarais se sont vues sur une base quasi quotidienne, tant à Montréal qu'à Sagard. Aux deux endroits, un bureau était installé pour le travail qu'effectuaient ces deux passionnés afin d'assurer un mieux-être à la vie culturelle du Québec et d'ailleurs au pays. On m'avait souvent parlé de cette fameuse Margot et de sa gentillesse légendaire, mais je ne l'avais jamais rencontrée. Quand je l'ai jointe lundi dernier pour lui demander si elle acceptait de me rencontrer, j'étais sûr d'essuyer un gentil refus. Finalement, contre toute attente, elle a bien voulu me parler de son amie. La rencontre a eu lieu dans un café de la rue Saint-Denis. « Je suis venue vous rencontrer car je crois que ça va me faire du bien de vous parler d'elle », m'a-t-elle dit. Donc, on va finalement en parler de Jacqueline Desmarais. Depuis le début, je parle juste de Margot. Depuis l'annonce du décès de son amie et patronne, Margot Provencher est submergée de témoignages de sympathie. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui m'ont appelé, écrit ou texté. C'est incroyable. Jacqueline était très aimée. Vous savez, partout au pays, il y a beaucoup de peine en ce moment. Margot Provencher quitte sa mélancolie et s'anime quand elle se met à faire le portrait, son portrait de Jacqueline Desmarais. C'était une femme qui aimait la vie, qui aimait créer le bonheur autour d'elle. Son énergie faisait du bien. Un jour, la chanteuse Renée Fleming lui a dit que son énergie était contagieuse. Jacqueline lui a répondu à la blague « Je sais et je crois que je vais commencer à facturer les gens pour cela. » Non, non, mais on ne devient pas riche n'importe
comment.
Il faut savoir saisir les opportunités d'affaires. On a la plupart du temps à coller l'étiquette de simple philanthrope à Jacqueline Desmarais. Mais ceux qui l'ont côtoyée vous le diront, son amour pour la musique était authentique et pur. Elle chantait tout le temps, raconte Margot Provencher. Il y avait toujours de la musique chez elle, dans toutes les pièces. Elle commençait chacune de ses journées en écoutant la chanteuse de jazz Blossom Dearie. Ça la mettait de bonne humeur. Cet amour de la musique et des musiciens passait également par une envie incontrôlable de créer des liens entre les gens. Elle connaissait tout le milieu de la musique à Montréal et tout le milieu musical la connaissait. Lors d'événements ou de soirées, Jacqueline Desmarais adorait provoquer des rencontres. Pour elle, le partage était la plus belle des valeurs, dit Marco Provenger. Jacqueline Desmarais a redéfini le concept de mécénat en y ajoutant l'accompagnement auprès de l'artiste. C'est bien beau donner de l'argent, mais il faut aussi savoir s'impliquer, être présent. En tout cas, c'est comme cela que Jacqueline Desmarais voyait les choses. Elle a été une mécène intéressée, je veux dire par là qu'elle s'intéressait vraiment aux gens et aux artistes. C'est pour cela qu'on l'aimait et qu'on la respectait. Bon an, mal an, Jacqueline Desmarais participait aux auditions de la Fondation pour jeunes chanteurs d'opéra canadien, fondation qui portait son nom. Son jugement était hautement pris en considération. Près de 130 jeunes interprètes de partout au pays ont bénéficié de sa bienveillante générosité. Parmi ses très nombreux protégés, on retrouve évidemment Yannick Nézet-Séguin, Étienne Dupuis, Julie Bouliane, Stéphane Tétrault et de nombreux autres. Je vais vous parler tantôt de Stéphane Tétrault, jeune violoncelliste.
D'accord.
Rien ne la rendait plus heureuse que de voir l'un d'eux remporter un succès. Membre du conseil d'administration du Metropolitan Opera à New York, elle avait obtenu de la prestigieuse maison d'opéra qu'elle se montre attentive aux talents des artistes canadiens. Les débuts d'un artiste de chez nous au Met étaient toujours quelque chose de très important pour elle, dit Margot Provencher. Je me souviens des débuts de Leila Claire. Elle était très excitée par là. La générosité de Jacqueline Desmarais englobait également les causes sociales. Paul Desmarais a toujours été sensible aux problèmes liés à l'itinérance à Montréal. Son implication, souvent discrète, fut considérable. Jacqueline a dit « Les femmes, il faut absolument aider les femmes qui ont des difficultés », se souvient Margot Provencher. C'est ainsi que la philanthrope a communiqué avec l'équipe de l'organisme La Rue des Femmes afin de lui offrir son soutien. « Les Jacqueline Desmarais sont rares dans le monde. Nous avons eu la chance d'en avoir une. » Dans les jours qui ont suivi son décès, j'ai entendu beaucoup de gens me dire qu'ils réalisent enfin le rôle qu'elle avait joué dans le monde des arts au Québec et ailleurs au Canada. Elle va laisser un grand vide, me dit Margot Provencher. Et moi, je crois que je n'ai pas encore totalement réalisé l'impact de son départ. En effet, depuis samedi dernier, depuis le départ de son amie et patronne, Margot Provencher a dû régler mille et une choses. Cela lui a permis de garder la tête hors de l'eau. Au cours de notre rencontre, elle a reçu beaucoup de textos et d'appels. Et devinez quelle est la sonnerie du portable de Margot Provencher? Nul autre qu'une chanson de Blossom Dearie.
Alors, moi, je vais vous transporter en Alberta pour vous faire le portrait de Tracy Campbell, la battante qui démystifie les traités autochtones. C'est paru sur le site ICI Radio-Canada Alberta et c'était publié le 7 mars, signé Stéphanie Rousseau. Tracy Campbell a lancé son entreprise de consultant dans les questions autochtones dans son sous-sol à Calgary il y a 10 ans, en pleine crise économique. Aujourd'hui, son équipe aide des Autochtones au Canada à manœuvrer dans les dédales du système de justice et à faire respecter leurs droits ancestraux. Grande, brune, femme aux bijoux rutilants, Tracy Campbell ne correspond pas au cliché de la femme d'affaires. Cette femme de deux enfants, mère de deux enfants, pardon, a lancé en 2008 à Calgary la compagnie groupe Caillou. Alors, pour nous, ça évoque un petit bonhomme animé, surtout que c'est les parents. Mais vous allez voir plus loin d'où vient le nom. Un nom connu par des dizaines de Premières Nations du pays qui ont utilisé ses services pour défendre leurs droits lors du développement de projets de ressources naturelles. Je travaillais pour une grosse entreprise de consultation environnementale qui a été rachetée. Et je me suis dit, je peux tout à fait faire ça par moi-même. C'est comme ça que je me suis lancée. Elle nous explique ça dans son bureau au 13e étage d'une tour de la métropole albertaine. Alors, elle a quitté depuis son sous-sol de Calgary. Lorsqu'un projet, qu'il soit minier, pétrolier ou hydraulique, traverse des terres de Première Nation ou de la Couronne, où les Autochtones ont des droits de chasse ou de pêche, il est obligatoire de mener un processus de consultation. Le moment le plus satisfaisant pour moi est d'être devant un chef, un conseil ou une assemblée et d'expliquer les droits ancestraux et issus des traités et de leur faire comprendre qu'ils ont des droits et qu'ils peuvent les défendre. Ils sont souvent très enthousiastes et c'est là que je suis la plus fière. L'entreprise d'une dizaine de personnes a été rachetée en juin par la firme conseil et comptable MNP, dont une partie importante de la clientèle est autochtone. En plus d'offrir des services de consultants, l'équipe propose aussi des cours en personne ou en ligne sur les traités et les droits autochtones pour les Premières Nations, mais aussi des cours destinés aux entreprises. Pour Tracy Campbell, il est primordial que ces sujets, qui ne font pas vraiment l'objet de cours dans les écoles ou les universités, soient mieux expliqués. La plupart des Canadiens terminent leurs études sans connaître la Constitution, l'histoire canadienne, les traités ou la loi sur les Indiens. Ils deviennent des citoyens, des électeurs, sans réelle compréhension de ces questions qui sont pourtant primordiales pour le Canada. Ah, c'est vrai que je me rappelle pas d'avoir vraiment appris sur la Constitution,
Ben,
à
peut-être.
part peut-être la date où ça a été
Ouais, peut-être.
adopté sans le Québec, là.
Rapidement, quelques minutes dans un cours d'histoire ou de
Mais c'est ça.
géographie,
Alors,
on oublie vite.
souvent d'ailleurs, si petite parenthèse, quand on a des amis immigrants qui obtiennent leur citoyenneté canadienne, ils doivent passer des examens, puis
Ouais.
souvent on se rend compte qu'ils
Ils en savent
s'en savent
beaucoup.
beaucoup plus que
Ouais, ils
nous
en savent beaucoup, c'est
après
bon.
ça.
Ils peuvent chanter au Canada par cœur,
Oui,
pas nous autres.
dans les deux langues. Alors, si les Canadiens comprenaient mieux leur histoire, les accords qui ont été conclus dans le passé, je crois qu'ils respecteraient plus facilement leurs engagements. Actuellement, ils ne les comprennent pas et nous allons continuer d'avoir de profonds désaccords et des conflits sur les projets de développement et de ressources naturelles, de développement de ressources naturelles, pardon, au Canada, si ces problèmes ne sont pas réglés. Mais si toute la vie de Tracy Campbell sert aujourd'hui à défendre les droits des communautés autochtones, il n'en a pas toujours été ainsi. Née d'une mère de la Première Nation de Michel et d'un père blanc, le racisme, Tracy Campbell l'a vécu de près. Quand son père a voulu épouser sa mère, la famille de celui-ci a tenu une réunion d'urgence pour tenter de bloquer l'union qu'elle voyait comme une catastrophe. Les membres de la famille de mon père se sont rencontrés pour décider ce qu'ils allaient faire du fait qu'il allait épouser une autochtone. Ils se sont demandé comment ils pouvaient empêcher le mariage. Ils ont parlé, mentionnant à quel point c'était horrible comme situation. Après le mariage, ma mère a beaucoup essayé de minimiser le fait que nous étions autochtones. Nous n'avons jamais rien célébré de traditionnel. C'est seulement quand nous passions du temps l'été chez mes grands-parents que nous disions que nous étions autochtones, car tout le monde était là-bas. À 18 ans, Tracy Campbell s'inscrit à l'Université de Calgary, où elle fait des études en droit, en sciences politiques et en géographie. Elle se spécialise dans les questions autochtones et s'intéresse particulièrement à la question des traités. Une passion qu'elle conjuguera plus tard avec sa fibre entrepreneuriale qui lui vient de son père pour se lancer en affaires. Pour moi, je pratique vraiment ma culture par le biais du droit. À sa sortie de l'université, elle travaille pour l'Institut nord-américain sur l'Arctique et pour diverses Premières Nations du nord de l'Alberta. Elle devient également consultante pour le gouvernement de l'Alberta avant de lancer le groupe Caillou, dont l'appellation vient du nom de famille de sa mère, Cayi-hou,
OK.
Callihoo.
C'est
Mais
pas le même.
le nom du groupe, ça s'écrit bien Caillou comme un
OK.
caillou.
C'est pas du tout. Elle n'a aucun lien de parenté avec le petit
Avec
bonhomme
le petit bonhomme.
Caillou. Ni,
Non,
c'est pas non plus une
c'est ça.
descendante de Fred Caillou.
Non plus. Avant, être autochtone était honteux. On le cachait. On se faisait ridiculiser. On se voyait refuser d'être servi dans les magasins. Le Canada n'était pas un endroit très accueillant pour les autochtones. Et encore aujourd'hui, il y a deux Canadas. Le Canada des non-autochtones et celui des autochtones. Si la Commission de vérité et réconciliation fait sortir les côtés sombres de l'histoire des Premières Nations, en février, le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé son intention de repenser fondamentalement la façon dont Ottawa reconnaît les droits et les titres autochtones. On en a parlé ici à l'émission d'ailleurs. Les libéraux se sont engagés à travailler avec les partenaires autochtones pour élaborer un nouveau cadre juridique favorisant l'autonomie gouvernementale. Justin Trudeau a notamment expliqué qu'il souhaitait donner une nouvelle vie à l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982 qui reconnaît et affirme les droits ancestraux et issus de traités. Le premier ministre a déclaré que les gouvernements ont ignoré ces droits pendant trop longtemps en laissant aux tribunaux le soin de les définir au jour le jour à travers leurs décisions. Pour Tracy Campbell, il s'agit d'un changement positif, même si elle trouve que les libéraux donnent trop peu de détails sur les changements envisagés. Je reste prudente, mais je demeure optimiste. Mon père avait déjà tenté un geste similaire en 1969, avant que les droits des traités ne soient protégés. À quelques jours de la Journée internationale des femmes, au moment où l'article était publié, enfin, Non, parce qu'il a été publié la veille, mais probablement au
Ouais, ça
moment où
avait
il a
été
été
éclairé.
rédigé, oui. Alors, Tracy Campbell avait un message pour les femmes, autochtones ou pas, qui rêvent de faire ce qu'elle fait, foncer. C'est tout à fait possible de faire une carrière formidable et satisfaisante sur le plan financier en défendant les Premières Nations et les traités autochtones. Lancer mon entreprise a été formidable. Il n'y a pas de journée où je me suis dit, oh, je vais me faire porter malade. J'ai trouvé ma passion et je souhaite à toutes les femmes de trouver la leur, ajoute-t-elle.
When I was young, I lived in a world of dreams, of moods and myths and illusionary schemes. Though now I'm much more grown up, I fear that I must own up to the fact that I'm in doubt of what the modern cynics shout of. They say it's spring. This feeling light as a feather. They say this thing, this magic we share together, came with the weather too. They say it's May that's made me daft as a daisy. It's May, they say, that gave the whole world this crazy, heavenly, hazy hue. I'm a lark on the wing. I'm the spark of a firefly's fling. Yet to me, this must be something more than a seasonal thing. Could it be spring? Those bells that I can hear ringing, it may be spring. But when the robin stops singing, you're what I'm clinging to. Though they say it's spring, it's you. Sing that when a heart's sympathetic, it's merely spring. Then poets' plights are pathetic, though I'm poetic too. They say it's spring. For lovers, there's where the lure is. That evil thing for which September the cure is, this they are sure is true. Though I know that it's so, that my fancy may turn in the spring with a right one in sight, one can find a perpetual thing. Did I need spring to bring the ring that you bought me, though it was spring? That wondrous day that you caught me, darling, I thought we knew that it wasn't spring, 'twas you.
Voilà un petit clin d'œil à Madame Feu, Jacqueline Desmarais. On vient d'entendre Blossom Dearie et They Say It's Spring.
Ah bien, on comprend pourquoi ça la rendait de bonne humeur le matin. Très belle voix.
J'avoue, et puis ben, en cette journée hivernale,
ouais.
Ça fait du bien d'entendre parler du printemps. Ça nous donne presque espoir qu'il va arriver un jour.
Oui, on y croit plus ou moins, mais dans une semaine environ.
Environ,
sur papier.
Oui, il faut prendre son mal en patience, tout le monde.
Oui, dans un tout autre ordre d'idées, je parle encore de musique, mais un autre style complètement. Un article que j'ai trouvé dans Le Figaro hier.
Ah, Le Figaro.
Le Figaro, un article qui a été publié le 9 mars Je vous ai parlé il y a une couple de semaines de Dolores O'Riordan, la chanteuse de Cranberry, qui est décédée.
Oui.
Et c'est pour ça, quand j'ai vu cet article-là, je vois, faut que j'en parle. Après la mort de Dolores O'Riordan, les Cranberries annoncent un album posthume.
Ah, qu'ils avaient donc déjà enregistré
ouais,
avec elle. Oui,
effectivement, ils avaient déjà commencé à travailler là-dessus. Dolores O'Riordan, décédée en janvier à Londres, s'était rendue dans la capitale britannique pour plusieurs sessions d'enregistrement. De quoi constituer un matériau sonore pour Noel, Mike et Fergal, ses trois compères du groupe de Cranberries. Un ultime disque du Quatuor est prévu pour le début de l'année prochaine, annoncent les Irlandais dans un communiqué publié mercredi. En bonus, ils annoncent la sortie d'une édition spéciale afin de célébrer les 25 ans de leur premier album « Everybody else is doing it, so why can't we? » Vous connaissez.
Oui, oui. Ben, je pensais que « Why don't we », mais c'est « Why can't we », effectivement. Mais oui, ça a joué en boucle, ça, quand j'étais à l'étranger.
Il avait une voix quand même assez intéressante.
C'est vraiment, je trouve, c'est la musique, le son des années 90.
Oui, ça décrit très bien.
Ouais.
Quelques jours avant sa mort, la chanteuse avait soumis à Noel Hogan, guitariste du groupe, l'idée d'enregistrer un nouvel album studio 6 ans après « Roses », le dernier opus des Cranberries. Une compilation de reprises acoustiques de leurs titres les plus connus, comme « Zombie »,« Just My Imagination » ou « Ode to My Family », qui avait vu le jour en avril 2017. Nous terminerons l'enregistrement d'un nouvel album studio, comme annoncé précédemment, que nous avons démarré l'année dernière et pour lequel Dolores avait déjà enregistré sa voix. Si tout se déroule comme prévu, ce nouveau disque sera terminé et disponible en début d'année prochaine, ont précisé les trois membres du groupe dans un communiqué. Rendez-vous en 2019 pour les Cranberries, donc. Ou peut-être un peu avant, si l'on en croit les dires de Noel, Mike et Fergal. Les Irlandais ont en effet prévu une petite surprise à leurs fans avant la fin de l'année. Ce mois marque les 25 ans de la sortie de notre premier album « Everybody else is doing it, so why can't we? » déclare-t-il. Nous confirmons que depuis l'été dernier, le groupe a collaboré avec Universal Music sur la création d'une édition spéciale pour en célébrer les 25 ans, une version remasterisée avec, en bonus, des morceaux inédits enregistrés à l'époque. La sortie, initialement prévue pour mars 2018, a été retardée par la mort de Dolores O'Riordan. C'est difficile à...
C'est un exercice de diction, hein?
Dolores O'Riordan. Bon. Après de mûres réflexions, nous nous sommes mis d'accord pour terminer ce que nous avions commencé. Nous y avons beaucoup réfléchi et avons décidé que ce que nous devions terminer... je pense que c'est mal écrit, cette phrase-là. Nous avons décidé que ce que nous devions terminer... Non, que nous devions terminer ce que nous avions commencé. Je pense que c'est une traduction. Le traducteur a eu de la misère avec ce bout-là. Mettons qu'ils ont décidé qu'ils allaient terminer ce qu'ils avaient commencé avec Dolores.
C'est toujours une bonne idée.
Ont-ils annoncé, avant de préciser, espérer pouvoir sortir l'album plus tard cette année? Le groupe irlandais s'était hissé en haut des charts avec ce premier opus sur lequel figuraient entre autres les tubes Dreams, Linger et Sunday. Le mois dernier, on apprenait que Dolores O'Riordan travaillait avec Andy Rourke, bassiste des Britanniques The Smiths, pour le groupe Dark, formé avec son compagnon, avant le décès brutal de la chanteuse. Une disparition d'autant plus tragique que l'Irlandaise semblait impliquée dans de nombreux projets musicaux. Et on ne sait toujours pas de quoi elle est décédée.
Ah,
une mort qui avait surpris tout le monde. Et non, effectivement, on dirait que présentement, c'est silence radio. Ah. On parle d'un nouveau disque, mais il n'y a pas rien de nouveau sur les circonstances de son décès.
Alors, la performance catastrophique du Canada en ce qui concerne la santé des populations autochtones mine ses efforts pour se positionner en tant que leader mondial de la santé publique, affirme une des publications médicales les plus prestigieuses de la planète, et j'ai nommé le journal médical britannique The Lancet,
qui a
été fondé il y a près de 200 ans. Alors, ce journal demande au gouvernement de Justin Trudeau d'appuyer ses belles paroles avec des gestes concrets. hein, qu'on dirait que c'est quoi les babines, non, que les bottines,
les suivent, bottines les
babines. Suivent
les babines.
Voilà. The Lancet a publié pour la première fois une série d'articles sur le système de santé canadien. Les textes ont été rédigés par différents experts canadiens. Alors, c'est des Canadiens qui critiquent les Canadiens. Là. On ne peut pas dire que c'est parce qu'ils ne nous connaissent pas bien.
Ça doit être des conservateurs.
L'écart évident entre la santé des Autochtones et des non-Autochtones compte parmi les principaux thèmes de la série, qui traite également de maladies chroniques, de mortalité infantile, de suicide et d'espérance de vie. La rédactrice en chef de The Lancet, Jocalyn Clark, a dit qu'il semble y avoir un pays en développement à l'intérieur des frontières du Canada. Elle a ensuite demandé comment le Canada pouvait être le leader dont nous avons besoin sur la scène internationale s'il est incapable d'être un leader chez lui en ce qui concerne la santé des Autochtones. C'est un peu bien dit, quand même. Madame Clark a ajouté que le temps est venu d'agir au moment où le Canada présidera le G7 en 2018. Un des articles constate que l'aide internationale du Canada est en déclin depuis quelques années, et ça, je pense qu'on peut l'attribuer aux conservateurs que vous mentionniez. Elle correspond actuellement, cette aide internationale, à environ 0,26% du produit intérieur brut. Et ça, ça nous place 15e parmi les 35 membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Une chercheuse note toutefois que la portion de cette aide consacrée à des initiatives de santé publique est en hausse depuis quelques années. Alors, je pense pas qu'on a assez de temps pour partager un autre bref article avec vous. Alors, on va en profiter pour... je parle pour moi, là. Je vais en profiter pour reposer un petit peu ma petite gorge qui fait un petit peu pitié, même si c'est pas un rhume d'homme, c'est juste un rhume de fille.
Ah, c'est moins pire, quand même.
Oui. Alors, on vous revient quand même fraîchement regaillardi après une courte pause. Merci.
Treating the deed, she don't just give me the bad, yeah. I'm a quiet. Chimini, Chichi, New York, Chino Dawi, Chinka Chishkurui, Chinka Shwenmi, Chinka Lodni, Chachita.
On vient d'entendre l'artiste Shawit qui nous chantait Chinka Shwenimin.
Waouh, je suis vraiment impressionnée par la prononciation qui veut dire, de Maurice.
Oui, la... Je ne sais pas. pas dire.
Merci beaucoup. Alors, je vais parler justement, pas seulement des Innus, mais des Autochtones en général à Montréal. J'en ai parlé un peu la semaine dernière de l'itinérance, mais là, il y a un article qui se penche plus en détail sur le sujet. Autochtones à Montréal, souvent un aller simple vers l'itinérance. Ça a été publié le 6 mars 2018 sur le site Espace Autochtone de Radio-Canada et c'est signé Anne-Marie Yvon. En fait, c'est tiré de son reportage. Alors, le fléau de l'itinérance touche plus particulièrement les Autochtones dans les villes canadiennes. À Montréal, la nouvelle commissaire des relations avec les peuples autochtones, Maître Marie-Ève Bordelot, doit travailler sur un plan d'action sur l'itinérance. Pendant ce temps, sur le terrain, Carlo De Angelis, l'agent de liaison autochtone pour la police, tente d'aider les plus vulnérables. Penché sur son bloc de serpentine, Simiouni Naouya s'apprête à lui donner vie à coups de scie à métaux et de lime. Il le transformera en ours ou en phoque. Il en fera peut-être un Inukshuk, ce monument de pierre empilée symbolisant l'humain. Originaire du village d'Akulivik au Nunavik, à 1700 km de Montréal, Simiouni n'en a pourtant pas vu de près, des Inukshuk depuis longtemps. Il a débarqué à Montréal à 10 ans et c'est dans la grande ville qu'il a appris à sculpter. C'est aussi là qu'il a appris à survivre. Simiouni fait partie des quelques 25 000 Autochtones installés dans la métropole québécoise. De ce nombre, environ 300, dont 40% d'Inuits, sont des itinérants chroniques ou épisodiques. Ils vivent égarés dans la jungle urbaine, vivotant entre les diverses ressources qui leur sont offertes. C'est le cas de Simiouni, mais en ce qui le concerne, il s'en sort relativement bien grâce aux œuvres qu'il vend. C'est surtout la réalité de Brian Latikamek, qui erre depuis 7 ans dans les rues du centre-ville, par obligation, dit-il. Il y a aussi Bruce, un Innu de la Côte-Nord, arrivé depuis 2 ans et qui espère poursuivre sa route vers l'est du pays. Et que dire de Fred, un Algonquin de Lac-Simon, à Montréal depuis 9 ans? Venu se chercher du travail et un logement, il n'a trouvé ni l'un ni l'autre. Alors, depuis 5 ou 6 ans, il fréquente assidûment l'organisme Projet Autochtone du Québec, PAC, seul refuge mixte pour Autochtones qui offre hébergement et repas aux personnes en situation d'itinérance et de précarité. Pour répondre à une augmentation ces dernières années des sans-abri autochtones, PAC a doublé sa capacité d'accueil en 2016. S'il y a les arrivants récents, la directrice de PAC, Adrienne Campbell, constate qu'elle a surtout affaire à une itinérance chronique, ce qui veut dire beaucoup plus d'un an dans la rue, ou épisodique, c'est-à-dire des gens qui peuvent avoir un logement mais qui retombent facilement dans le cycle de l'itinérance. Selon ce qu'observe Mme Campbell, il est très commun de voir des membres d'une même famille en situation de précarité à Montréal. Fuyant divers problèmes de pauvreté, de violence ou de dépendance, ils croyaient améliorer leur sort dans la métropole, mais pour plusieurs, l'intégration ne s'est pas déroulée comme prévu. On voit les effets des pensionnats et les traumatismes intergénérationnels, nous dit Adrienne Campbell. La barrière de la langue et la difficulté de se trouver un emploi et, se faisant, un logement, ont fini par entraîner ces personnes dans le cercle vicieux de l'itinérance chronique. Pour Fred, le plus dur en ville a été de trouver les organismes appropriés à ses besoins. « L'aide n'est pas accessible comme moi j'aimerais », précise-t-il, se demandant comment avoir accès à ce genre d'informations. « Le centre d'amitié autochtone, ça m'a pris des années à comprendre que je passais devant. » Ça, c'est vraiment triste. De savoir qu'on passe devant un lieu et on ne comprend pas à quoi il sert ce lieu. Voilà. Le travail de Carlo De Angelis est justement d'aider ses plus démunis. Agent de liaison autochtone au service de police de la ville de Montréal, Carlo et sa partenaire Patricia Drouin côtoient depuis plusieurs années la frange la plus vulnérable de l'itinérance. Il écoute, dirige les uns et les autres vers les services sociaux et les organismes appropriés, dont PAC. Redonner l'espoir et la dignité aux Autochtones et être inclusif, c'est la mission que s'est donnée Carlo. une mission plus qu'un travail, précise-t-il, en ajoutant du même souffle qu'il faut comprendre pourquoi la personne en est rendue là. Il faut prendre le temps d'écouter et de comprendre. Ça semble tout simple, mais parfois, les gens se donnent juste pas la peine de le faire. C'est bon d'avoir un contact comme Carlo, se réjouit Adrienne Campbell, la directrice de projet autochtone du Québec, en spécifiant que cela aide au rapprochement. La relation entre autochtones et policiers n'est pas connue pour être bonne. Je pense que c'est un euphémisme. Alors, Carlo est une ressource nécessaire, selon elle. Sur le terrain, on perçoit clairement la difficile interaction entre les Autochtones et les forces de l'ordre. Fred en sait quelque chose. La plupart des Autochtones, comme nous, font souvent l'expérience de l'ignorance. Les connaissances ne sont pas adaptées à leur approche face aux Autochtones. Gilbert, un grand Mohawk au physique d'acteur, est sans abri depuis 2 mois. Rencontré à Pâques, l'artiste peintre a un point de vue tranché sur le sujet. « J'essaie de fuir les cow-boys, parce qu'il y a beaucoup d'hostilité, beaucoup d'ignorance. » Ce qu'il voit n'est pas édifiant, ajoutant qu'il y en a qui l'ont à cœur, d'autres qui s'en calissent. La réalité, c'est ça. S'il avait un conseil à donner aux policiers pour établir de meilleures relations avec les Autochtones, Gilbert leur apprendrait le savoir-vivre, parce que c'est pas moi le sauvage. J'aime ça, cette phrase-là. La sensibilisation des agents du SPVM, c'est aussi une partie du travail de Carlo D'Angelis. Il doit travailler beaucoup d'heures, cet homme-là, par semaine. Pour aider au rapprochement, il a donné des séances d'information aux réalités autochtones à 1500 policiers jusqu'à maintenant. Ils en ont appris plus sur l'histoire des Autochtones, sur les effets néfastes des pensionnats ou sur la rafle des années 1960 de la bouche des intervenants qui l'accompagnent, dont Wayne Robinson de Montréal Autochtone ou Adrienne Campbell, la directrice de PAC. Selon elle, il y a encore du travail à faire, mais on est sur le bon chemin, vers quelque chose de meilleur. En assistant à une séance de sensibilisation, on réalise qu'outre la nécessité d'éduquer les policiers à la dure réalité passée et actuelle vécue par les Autochtones, un problème majeur les freine lors de leur travail sur le terrain, le manque flagrant de ressources et d'intervenants de première ligne. C'est toujours le même cercle qu'on vit depuis des années, constate un policier qui déplore la fermeture des divers organismes au service des itinérants. Il y en a qui finissent vendredi à 3h30 et on n'a pas assez d'intervenants sur la rue. Les itinérants autochtones rencontrés dans la rue sont unanimes. Les choses doivent changer au niveau des forces de l'ordre, mais également au niveau de la société. Les gens grandissent avec des préjugés en tête par rapport aux autochtones. Et ça ne nous aide pas, conclut Adrienne Campbell. Ça fait du bien de reprendre son souffle.
Ouais.
On dit souvent toujours de respirer par le nez, mais quand le nez est bouché, c'est pas bien.
C'est pas le temps de se plaindre là, quand on pense à notre ami Serge.
Mais
qui
oui,
est
Serge,
on est
avec vous. On espère que vous avez pris un bon gingembre dans une eau chaude au citron.
Ouais, un rhume de gars, si vous saviez c'est quoi, vous seriez pas ici aujourd'hui.
Oh,
là. C'est quand même pas mal plus
sérieux.
Partez-moi
pas là-dessus.
non, je sais qu'il est très mal. Donc, je vais continuer avec un autre article qui était dans le dossier spécial de la presse en fin de semaine sur Jacqueline Desmarais.
Mm-hmm.
Un article qui a pour titre « L'ange protecteur des jeunes ». Deux critères ont toujours guidé Jacqueline Desmarais dans le choix des artistes qu'elle a aidés au cours de sa vie. Le premier était évidemment le talent.
Mm-hmm.
Pour le connaître, elle faisait confiance à son instinct et à son infaillible flair. N'oublions pas que la mécène possédait une vaste culture musicale. Le second critère était la jeunesse. Pour elle, il importait que l'aide qu'elle procurait aux artistes se fasse au moment où ces derniers s'apprêtaient à déployer leurs ailes. Pour le violoncelliste Stéphane Tétrou, l'un des nombreux musiciens ayant bénéficié de l'aide de Jacqueline Desmarais, c'est exactement comme cela que les choses se sont déroulées. « J'avais 17 ans et Radio-Canada avait réalisé un reportage sur moi lors d'un concert avec Imouzichi, dirigé par Maxime Vangerov, raconte le musicien. C'était en octobre 2010. Jacqueline Desmarais et son mari étaient en voyage, mais ils regardaient le téléjournal. Elle m'a vu et un déclic s'est fait. Dès le lendemain, Jacqueline Desmarais téléphone à sa précieuse assistante, Margot, dont on a parlé tantôt, et lui dit « J'ai vu un jeune musicien extraordinaire à la télévision. Il faut que tu me le trouves. Coup de chance, le bras droit de Madame Desmarais avait assisté la veille au concert mettant en vedette le jeune Tétrou. Une invitation impromptue est lancée à Stéphane Tétrou, celle de venir se produire au pavillon de musique que Jacqueline Desmarais a fait construire au domaine de la famille à Sagard. Cet espace, situé non loin de la résidence, peut accueillir un petit nombre d'invités. Un piano à queue s'y trouve, qu'on utilise pour accompagner des interprètes ou des musiciens solistes. On m'a invité à venir me produire le 23 décembre, se souvient Stéphane Tétrou. Chaque année, pour Noël, Madame Desmarais organisait un récital dans ce lieu. J'ai choisi de présenter la sonate pour violoncelle numéro 1 de Brahms et les variations sur un thème rococo de Tchaïkovski. Quelques minutes avant de jouer, j'avais un trac fou. J'étais très intimidé d'être là. Elle est entrée dans le pavillon, toute souriante, et elle m'a dit « Bonjour, je suis Jacqueline Desmarais et j'ai très hâte de vous entendre. » Soudainement, toute ma nervosité est tombée. Le courant passe entre Jacqueline Desmarais et le jeune musicien. Ils se voient sur une base régulière. Qu'importe les 65 ans qui les séparent, une grande complicité se forge entre eux. Chaque fois qu'on nous voyait au concert, on était en train de rigoler, dit Stéphane Tétrou. À cette époque, Stéphane Tétrou joue sur un violoncelle britannique datant de la fin du 18e siècle. C'était un excellent instrument. Mais Madame Desmarais avait compris qu'un très bon instrument, placé entre les bonnes mains, fait faire un grand bond à un musicien. Elle m'a dit de commencer à regarder dans le marché si un violoncelle intéressant s'y trouvait. Le hasard fait qu'au même moment, un Stradivarius ayant appartenu à Bernard Greenhouse est à vendre à la suite du décès du grand musicien. Des essais sur cet instrument vieux de 310 ans et nommé « Comtesse de Steinlein » ont eu lieu à Boston. Stéphane Tétrou se rend également à New York et à Londres afin d'essayer d'autres violoncelles. Finalement, une audition à l'aveugle est organisée à Montréal pour le choix définitif. Quelques personnes, dont Madame Desmarais, sont présentes pour cette audition qui se déroule dans deux salles différentes de la métropole. En conclusion, il apparaît évident que le Stradivarius se révèle le meilleur choix. Le coup de...
voilà,
donner une évaluation.
J'ose même pas le prononcer.
On parle pas d'une guitare électrique Fender Stratocaster,
ouais, non.
Le coût de 6 millions de dollars pour l'acquisition.
6 millions?
Oui.
Pour un seul violoncelle?
Un seul violoncelle. Les cordes étaient dessus, je pense. Les cordes
neuves. C'est ça, cordes non incluses.
Le coût de 6 millions de dollars pour l'acquisition de l'instrument est entièrement assumé par la mécène. Elle avait son carnet de chèques sûrement sur elle.
Oui, sûrement.
Stéphane Tétrou adorait discuter de musique avec Jacqueline Desmarais. Ses goûts étaient variés. Elle aimait l'opéra, la musique classique, le jazz. Elle aimait la musique romantique, Tchaïkovski, Mahler, Wagner. Elle avait un excellent jugement. Ce n'est pas quelqu'un qui a seulement mis son argent au service des arts et de la musique. Elle connaissait cela. Et avec ses protégés qui la rendaient si fière, pouvait-elle être critique? « Oui, mais c'était toujours positif », dit Stéphane Tétrou en souriant tendrement. Elle pouvait me dire « La finale de tel mouvement dans tel concerto était particulièrement réussie. » Et moi, je lui disais « Oui, mais vous m'avez dit exactement la même chose la dernière fois. » Et elle ajoutait alors « Oui, mais là, c'était encore mieux. » Stéphane Tétrou évoque ses souvenirs « Les yeux embués », le départ de celle qui a joué le rôle d'ange protecteur dans sa carrière le rend triste. « Je lui ai parlé pour la dernière fois en décembre, » dit-il. « Je rentrais de la tournée européenne avec l'Orchestre métropolitain. » Elle était au courant du triomphe que nous avions eu. Cela la rendait heureuse.
Ben moi, je vous amène, comme toujours ailleurs, je vous amène dans le nord. On a parlé de Montréal et d'itinérance, mais là, on parle plutôt des gens de Montréal qui se rendent dans le nord. C'est un article qui date du 22 février, mais que j'avais complètement oublié. Il était perdu dans ma poche. C'est signé Maïté Labrec-Saganache, paru dans le journal Métro. On souligne que Madame Labrec-Saganache, pardon, est militante CRI, et étudiante en sciences politiques. Vous êtes probablement familier avec les très problématiques voyages humanitaires. Je ne dis pas qu'ils le sont tous, mais la majorité se font avec des intentions questionnables. Il y a quelque chose de fascinant et de triste dans ce phénomène de jeunes blancs qui pensent sauver le tiers-monde en distribuant des barres tendres en Afrique. Dans le Nord, on a aussi le même problème. De plus en plus d'Alloctones passent quelque temps dans nos communautés avec l'intention de sauver les Autochtones. C'est un problème difficile à soulever. Ces personnes croient sincèrement être des alliés et nous accusent de racisme en nous renvoyant en pleine face l'argument de la main tendue, si on ose questionner leurs intentions. C'est dommage de voir que beaucoup ne sont pas capables de faire une introspection. J'en entends beaucoup des histoires de ces sauveurs ici. Certains arrivent ici, commencent des projets sans consulter les départements et partent au bout de quelques mois en laissant au passage des enfants déçus de ne pas continuer leurs activités. Il y a aussi cette habitude agaçante de poser au milieu d'enfants autochtones pour Instagram comme s'ils étaient de simples accessoires exotiques. Bref, des photos qui les dépeignent comme des héros des pauvres Indiens. Ça fait mal à notre dignité et nie complètement le travail des gens dans notre communauté. Ces comportements, même les gens qui ne sont pas de la communauté les dénoncent. Beaucoup de gens de l'extérieur se sont installés ici depuis des dizaines d'années et font maintenant partie intégrante de nos réserves. Ces gens se sont adaptés et, contrairement aux « sauveurs », ils n'imposent pas leur manière ici. Certains sauveurs retournent dans les milieux urbains avec une interprétation erronée de nos cultures et de nos codes sociaux. Ils s'invitent dans les débats, font des commentaires racistes, en prétendant tout savoir après quelques mois passés dans une communauté autochtone. Certains viennent ici uniquement pour le chèque de prime d'éloignement. Tout ça, à la longue, devient agaçant. Les Autochtones n'ont pas besoin d'être sauvés. Nous avons besoin de souveraineté territoriale, d'autonomie dans les services qu'on administre et de services culturellement adaptés, pour ne nommer que ceux-là. Imposer des manières de faire qui ne correspondent pas à nos modes de vie mène automatiquement à l'échec. Je vous invite à découvrir nos territoires, oui, mais faites attention à vos comportements quand vous venez ici. Vous avez beaucoup à apprendre sur nous. Écoutez, au lieu de penser que vous allez tout nous apprendre. Et je dis ça en tout respect, vraiment.
Je vais me permettre un petit écart ici. Je ne vais pas vous parler de musique cette fois. Étant donné que Serge
qu'on a le temps,
là.
Voilà, c'est ça.
Ouais, Serge,
vous allez empiéter sur ses terres.
Ben, pas vraiment, mais il avait déjà lu un article sur la poupée Barbie il y a quelques semaines, pas si vous vous souvenez. Et j'ai trouvé un article en fin de semaine qui aurait peut-être pu compléter un peu ça. Un article qui est paru dans l'édition du 10 mars de Pause Weekend dans la Presse Plus. Des femmes célèbres ont désormais leur Barbie. Je ne m'intéressais pas vraiment à Barbie avant. Ben,
si
là,
je voulais, par exemple, acheter la Barbie Michelle Obama...
Je ne sais pas s'il y en a une encore, mais l'artiste mexicaine Frida Kahlo, vous connaissez,
ben ouais, oui.
La chef française Hélène Darroze et la planchiste Chloé Kim ont désormais leur Barbie, de même qu'une série de femmes célèbres dévoilées mercredi par Mattel, qui tente un nouveau coup de marketing pour remédier au ralentissement de ses ventes. Le fabricant américain de jouets a lancé une série de poupées à l'effigie de célébrités actuelles, dont fait partie Hélène Darroze, et une autre baptisée Inspiring Woman, et Women dans le fond, avec, quand c'est écrit E-N,
oui, women.
Inspiring Women, women. Femme inspirante, qui comprend Frida Kahlo. Dans la première série figurent également 6 athlètes, une réalisatrice, Patty Jenkins de Wonder Woman, une femme qui défend la vie sauvage, 2 designers, une journaliste, une actrice et une danseuse. La série Inspiring Women comprend, outre Frida Kahlo, l'aviatrice américaine Amelia Earhart et la mathématicienne Catherine G. Johnson, popularisée par le film Hidden Figures. Je ne sais pas si vous aviez vu ce film-là.
Non, ça me dit rien.
C'était très intéressant. Mmh. Hidden Figures, des personnes, des femmes qui ont travaillé pour la NASA, pour le vol de, je ne me souviens pas quel programme Apollo.
Ah, est-ce que c'était les 3 femmes noires?
Oui, oui, oui.
Oui, je ne me rappelais pas du titre, mais ni du nom des personnes, malheureusement. Mais je ne
sais pas
s'ils
ont toutes leurs Barbie, là.
Mais ouais, c'est ça. Ben, ils ont plus la plus cute, j'imagine.
On va pas là.
Non, mais tu sais, c'est Barbie. Hein.
Bon. Elle doit être grande, en tout cas, elle est mince.
Oui, c'est ça.
Bien qu'incarnant des personnalités connues, toutes ces poupées conserveront le physique classique et irréel de Barbie, effectivement, notamment sa taille, qui ne correspond aux proportions d'aucune femme. Après avoir proposé, durant des décennies et à quelques exceptions près, une Barbie blanche et blonde, Mattel a multiplié ces dernières années les ouvertures pour diversifier le profil de la célèbre poupée. Depuis début 2016, l'entreprise californienne avait notamment lancé des versions rondes, petites et grandes de Barbie. Je ne me souviens pas avoir vu ça. Fin décembre 2017, le fabricant de jouets a aussi lancé une figurine en l'honneur de l'escrimeuse américaine Itbijaj Muhammad, en tout cas, qui porte le voile islamique. Une Barbie avec le voile.
Ah, quand même.
Ouais, ça, je ne l'avais pas vu.
Ça,
non plus.
C'est innovateur un peu.
Cette diversification a permis à Barbie d'être l'un des seuls articles de Mattel à tirer son épingle du jeu. Augmentation de 9% au dernier trimestre 2017, quand le fabricant de jouets a vu son chiffre d'affaires global reculer de 10,5% sur l'année 2017.
Alors, un article qu'également je gardais dans mes cartons, qui date du 12 février, « Regards croisés sur l'arrivée de la 138 à Unamen Shipu », sur le site Ici Côte-Nord, signé Émilie Duchesne. Émile Duchesne, pardon. Les travaux pour le prolongement de la route 138 entre Kegaska et Unamen Shipu, la romaine, devraient débuter en 2019, même si l'arrivée de la route brisera l'isolement de Unamen Shipu et facilitera les transports. Certains voient d'un mauvais œil le désenclavement de la communauté. Devant compter sur le transport aérien et maritime pour l'acheminement des marchandises, l'arrivée de la route devrait régulariser la disponibilité des denrées dans la communauté. Pendant les mois de février et de mars, le Bella des Gagnés, qui assure la desserte maritime de la région, cesse sa course, et c'est lors de cette période que la communauté est la plus vulnérable aux pénuries. Un aîné de la communauté, Abraham Bellefleur, estime que l'arrivée de la route stabiliserait l'acheminement des denrées. C'est le dernier voyage qu'il fait, le bateau, pour la nourriture. On n'aura pas de nourriture jusqu'à la mi-mars. Ce serait mieux une route pour nous apporter les choses qu'on manque ici. Les gens de la communauté utilisent souvent leur chaloupe ou leur motoneige pour atteindre par eux-mêmes la route 138 à Kegaska. Un grand nombre d'accidents surviennent lors de ces voyages et certains y ont même laissé la vie dans les dernières années. J'aimerais ça avoir une route au lieu d'aller en chaloupe parce que c'est dangereux pour les jeunes d'aller à Kegaska. C'est Abraham Lafleur, encore une fois, qui nous le dit. Si personne ne conteste l'aspect sécuritaire d'une route, d'autres s'inquiètent de l'impact de celle-ci sur le mode de vie innu. Un autre aîné d'Unamen Shipu, Ambroise Marc, redoute que l'arrivée de la route amène avec elle la destruction du territoire, mais aussi une augmentation des problèmes sociaux. En effet, il estime que la route 138 facilitera l'entrée de drogue dans la communauté. S'il y a la route, les hommes blancs vont s'installer encore plus à l'est, même à Unamen Shipu. Ils vont amener n'importe quoi, comme la drogue, l'alcool, puis tout ça. Ambroise Marc croit aussi que la construction de la route va faciliter l'exploitation des ressources naturelles, ce qui aurait un grand impact sur la forêt et la faune. Quand ils vont construire la route, ils vont détruire ces terres-là pour chercher des minerais, pour encore détruire comme ils l'ont fait à Sept-Îles, Mastouyatch et Chechachit. Si ça arrive, il n'y aura plus de terres ancestrales. Ambroise Marc explique qu'en ce moment, le territoire de la communauté d'Unamen Shipu n'est pas affecté par les projets industriels, contrairement à ce qu'on peut voir plus à l'est, à l'ouest, pardon. Ici, on est vierge, bien vierge. Tandis que de Natashquan ou Wave-Saint-Pierre jusqu'à Montréal, ils ont tout détruit. Même si Abraham Bellefleur pense que la culture et la langue innu sont en danger, il estime que l'arrivée de la route ne changerait pas drastiquement la dynamique actuelle. Pour Ambroise Marc, la destruction du territoire va de pair avec la disparition de la culture innu. Si la route 138 amène avec elle des projets d'exploitation des ressources naturelles, comme il l'entrevoit, Ambroise Marc estime que la culture innu pourrait disparaître. Et l'article se termine sur justement ces paroles d'Ambroise Marc. Les Innus, ils vont être disparus. Il n'y aura pas d'Innus. Ouais. Et ben c'est aussi ce qui met fin à cette édition des Voix de service. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde. Daniel Lachance.
Merci.
On souhaite un prompt rétablissement à Serge et Bradek. On souhaite qu'ils nous reviennent en santé la semaine prochaine. Et à mon nom, Isabelle Falardeau, je vous souhaite une bonne semaine.